Radio G, il est pile 20h. Coucou, c'est Quasa Ranzière qui revient après cette émission de folie des 40 ans de Radio G en direct de Saint-Jean. Écoutez, c'est parfait parce que on passe d'un direct à un autre direct dans le studio depuis la rue de la Rame pour ce nouveau quatrième numéro de Quasa Ranzière de la saison 2021-2022. Allez-vous bien? Je l'espère en tout cas parce que nous vous avons préparé une petite émission qui sera exclusivement masculine pour les intervenants et exclusivement féminine pour les titres et les interprètes des différentes chansons. Aujourd'hui, nous faisons une balade de France, plutôt côté Touraine, Charente et puis le Pays Basque, des associations LGBT, puisque c'est Quasa Ranzière, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe plus d'Angers et du Maine-et-Loire. Et comme à chaque début d'émission, eh bien nous faisons un tour vers le calendrier, notre agenda, l'agenda qui vous permet de vous y retrouver dans les activités que nous avons et qui vous permet aussi de venir y participer. Alors, sachez simplement que Quasar est partout, puisque à l'instant même où nous nous parlons, depuis une heure, a débuté le fameux rendez-vous transparent, le groupe de parole pour les parents des personnes ou des enfants transgenres, à genre ou non binaire. C'est un rendez-vous et un groupe de parole mensuel. Demain, vendredi, à noter sur l'agenda, coché 19h, la réunion des croyants LGBT Anjou. Et puis, après-demain, samedi, le 23 octobre, eh bien, à Quasar, ce sera la permanence à partir de 17h. Lundi 25 octobre, 18h, c'est la réunion du pôle droit des étrangers. Alors, petite information, si vous êtes intéressé pour aider les demandeurs et demandeuses d'asile liés à leur orientation sexuelle, identité de genre ou état de santé, si vous voulez vous former, vous habituer à les accompagner socialement dans leurs procédures, eh bien vous pouvez contacter le pôle droit des étrangers de Quasar. C'est très simple, asile au singulier @quasar.fr. Quasar, Q-U-A-Z-A-R. Passons au mois de novembre maintenant, le jeudi 4 novembre à 20h, nous nous retrouverons dans 15 jours pour ce Quasar en d'hier. Le dimanche 7 novembre, eh bien, ce sera dès 14h l'après-midi jeu du pôle droit des étrangers. Là, les différentes personnes suivies eh bien, peuvent venir jouer, mais aussi toutes les adhérents de Quasar et tout le monde finalement. Le lundi 8 novembre à 19h, ce sera la réunion bilan de la Pride 2021 avec tous les partenaires. Et puis le vendredi 19 novembre à 20h, c'est le retour de la deuxième conviviale de l'année. On a démarré doucement, mais c'est normal, le temps de se réhabituer, d'apporter un repas, de le partager avec tout le monde, de passer un bon moment et de se faire la bise. Et vous n'oubliez pas que tout au long des mois, à chaque samedi à 17h, c'est la permanence au local de Quasar, 15 rue de Jérusalem, 49 100. Nous entamons ce premier tour de France avec les Bascos qui nous rejoignent maintenant en différé, enregistrement avec Beignat cet après-midi. Bonjour Beignat.
Bonjour.
On se redit les choses puisque tu es déjà intervenu sur Radio G dans Quasar d'hier. Beignat est la traduction basque de Bernard.
De Bernard. Voilà. Oui, mais qui a été refusé à son temps à l'état civil parce que, d'abord, on n'acceptait pas les noms qui n'étaient pas dans le calendrier. Et deuxièmement, c'est toujours refusé parce que le tilde est refusé. Parce que Beignat, le nœud, c'est le NTD. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Donc, je m'appelle depuis ma toute petite enfance Beignat, mais sur les papiers, je m'appelle Bernard. Et en fait, tout le monde autour m'appelle Beignat.
Voilà. Eh bien, on continue, nous, à t'appeler Beignat avec plaisir. Alors, tu es militant des Bascos. Rappelle-nous en deux mots.
Alors, les Bascos, c'est une association qui a maintenant 17-18 ans d'existence, qui intervient sur trois territoires, le Pays Basque, évidemment vu le nom, mais aussi sur Pau. On a dû changer de nom parce que les Bascos à Pau, ce n'est pas possible. Donc, on s'appelle Arcolan, qui veut dire arc-en-ciel en gascon. Et on a une antenne aussi sur les Landes qui s'appelle Nos Couleurs. Voilà. Donc on intervient sur trois territoires qui sont des territoires sud-aquitains. Et donc on intervient sur trois pôles, trois types d'activités. Tout ce qui concerne la socialisation via la convivialité, le sport, la culture, la fête. Et puis le deuxième volet, c'est le volet social, c'est-à-dire les permanences. Ça veut dire les interventions au milieu scolaire. Ça veut dire le suivi de dossiers particuliers comme les seniors. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet militant. Qui est le volet d'engagement de l'association, non seulement à travers des engagements classiques comme l'organisation de la marche des fiertés, donc il y a la marche des fiertés de Biarritz, on prépare pour l'année prochaine la marche des fiertés de Pau, mais aussi à travers des mobilisations au moment des élections, au moment des journées du calendrier LGBT+, là, on prépare par exemple la journée du souvenir trans, et puis militant aussi, parce qu'on intervient sur des problématiques sociales, et on participe à une manifestation dans le Pays Basque le 20 novembre, manifestation pour le logement, pour le droit au logement, parce que c'est une vraie problématique qui impacte toute la population, et comme on est dans plusieurs collectifs, notamment dans un collectif qui s'appelle Bâtir les solidarités, avec des associations qui interviennent sur le social, comme l'abbé Pierre, comme le Secours catholique, etc. On a décidé de sensibiliser les politiques sur cette question du logement. Alors, c'est quelque chose de très large, mais on y participe et on prépare la manifestation.
Dans le cadre de ces trois axes-là et de ce que tu as décrit, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la marche des fiertés de Biarritz de cette année, dans les conditions difficiles où elle a été organisée, comme nous à Angers, mais vous particulièrement, m'a-t-il semblé?
Alors, pas plus qu'ailleurs, c'était les mêmes problématiques sanitaires, et puis les mêmes problématiques organisationnelles et financières, puisque, en fait, les conditions d'organisation ne permettaient pas d'avoir un bar, et on n'a pas organisé de soirée. Donc ça veut dire que on était déficitaire sur cette opération. On l'avait anticipé, mais c'est comme ça. On a perdu des sous, mais c'était pas ça l'important. L'important, c'était que la marche ait lieu. Et elle a été vraiment très positive, dynamique, avec un public jeune, mais comme dans beaucoup d'endroits, qui avait vraiment très envie de revenir marcher dans les rues. Donc voilà, la prochaine édition, on va essayer d'équilibrer financièrement, parce qu'évidemment, nos associations sont toujours fragiles et sur la corde quand il s'agit des financements.
Voilà. Si je peux me permettre, nous avons quand même pu tenir un Pride Café, et effectivement, grâce à lui, nous ne sommes pas déficitaires, mais vous n'étiez pas dans les mêmes conditions sanitaires exactement que nous, où nous, les chiffres ont dégonflé beaucoup plus vite que nous.
Ouais. Dans le sud. Oui, et puis nous, on avait la contrainte du masque, etc. Enfin bon, peu importe. L'important, c'est que la manifestation ait lieu, et qu'on ait pu faire passer notre slogan. C'était donc, je l'ai quasiment oublié, mais c'est important, c'est l'ensemble de nos engagements. je n'ai pas oublié, mais c'était agir ensemble, continuer nos luttes. Voilà, c'était autour de ça. C'était à la fois montrer la diversité, mais aussi la nécessité de se rassembler. Voilà.
D'accord. Et le
c'était
projet
ici, ailleurs, et ensemble.
Et le projet de la marche de Pau, il vient d'où et de par rapport il à quels besoins?
Il vient des militants de Pau, parce que les Palois venaient régulièrement chez nous, mais il faut savoir qu'il y a quasiment 100 km pour venir de Pau jusqu'à chez nous. Que Pau est une ville importante, mais une ville quelque peu bourgeoise aussi, qui a toujours quelque part repoussé l'idée d'une marche, c'était pas nécessaire, etc. Et là, on a une jeune génération qui demande à ce qu'il y ait une visibilité. Alors, on avait une visibilité l'année dernière parce qu'on avait fait un camion pour le carnaval béarnais. Et là, tu vas me dire, un carnaval béarnais, c'est pas forcément la Pride. Oui, mais ce camion s'appelait le Charméléon, et il portait une espèce de caméléon qui, d'un côté, portait les couleurs rainbow, puis de l'autre côté, les couleurs roses et blanches. Donc, c'était une affirmation, une visibilité, puisque c'était un espèce de caméléon gigantesque, je crois 2,50 m de hauteur.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
représentation pour les Basco ce soir. Et donc, dans les activités qui sont les vôtres, sur le plan social, quelles sont les priorités que vous vous êtes données pour cette fin d'année et début 2022?
Alors, les priorités, elles s'imposent en fait par les contacts qu'on a. C'est-à-dire qu'on tient des permanences chaque semaine dans plusieurs endroits du territoire. Donc, on fait des permanences à Bayonne, on fait des permanences à Biarritz, à Hendaye, à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Tyrosse et à Mont-de-Marsan et à Pau. Et donc, en fait, c'est des créneaux horaires sur lesquels on communique, les personnes viennent et on traite les sujets qui nous viennent. Et un des sujets qui vient là en ce moment, c'est que depuis l'adoption de la loi ouvrant la PMA aux femmes et aux couples de femmes, on a une situation particulière qui est née, c'est-à-dire que pour les couples de femmes qui vont faire appel à une PMA en Espagne, c'est le cas ici beaucoup parce qu'ils n'attendent pas que la loi se mette en œuvre, il est nécessaire, indispensable, de faire une déclaration préalable chez le notaire. Et souvent, comme les décrets sont tombés là tardivement, les personnes découvrent à quelques encablures du premier rendez-vous pour la PMA qu'il faut absolument avoir rendez-vous chez le notaire. Donc, on nous appelle souvent, on nous rencontre en permanence en urgence, en nous disant, est-ce que vous avez un notaire susceptible de nous faire un rendez-vous très rapidement? Et la difficulté, c'est que les notaires ne sont pas toujours encore tout à fait au fait. Donc, on a quelques notaires que l'on connaît, heureusement, et pour lesquels on arrive à arracher des rendez-vous, parce qu'un rendez-vous chez un notaire, c'est en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On a rendez-vous avec Leclerc éventuellement. Mais donc là, on a quelques pistes. On a eu des interventions. On a eu déjà 2-3 couples qui ont fait appel à un notaire sur Bayonne. Et donc, voilà, ça fait partie des priorités. Et puis, sur le social, on a beaucoup de rendez-vous en ce moment avec des établissements scolaires qui veulent, installer dans l'année une intervention au milieu scolaire et qui nous rencontrent et avec lesquels on passe une convention. La convention doit passer par le conseil d'administration parce qu'il y a une partie budgétaire on demande un financement de nos interventions. Voilà, la semaine dernière, par exemple, on est allé sur un collège, sur Cap-Breton, un lycée à Cap-Breton. On prévoit 6 classes qui vont être donc sensibilisées l'année prochaine. Et donc, convention et passage ce jeudi au conseil d'administration de la convention. Et on a vu aussi un collège du côté landais qui va aussi faire appel à nous pour 4 classes de 3e suite à un acte, une agression homophobe au sein d'établissement.
Radio G, 101.5 FM.
Entendu. Est-ce que par rapport à toutes ces activités-là, vous avez de nombreux cas d'agression, d'injures ou de violences intrafamiliales, ou est-ce que c'est plus diffus tout au long de l'année?
Alors, ce phénomène-là, on l'a perçu quand on a mené l'enquête. Chaque année, on mène une enquête sur les 3 territoires. C'est du déclaratif. On lance une enquête en ligne, c'est relayé par la presse, et les personnes font de manière anonyme une déclaration de ce qu'elles ont pu vivre. Et pour la première fois, lors de l'enquête donc 2021, qui a été conduite sur 4 mois, on a vu une montée assez forte des problématiques au sein des familles. Alors, on ne peut pas dire qu'on ait eu au sein des permanences la même montée de ces problématiques-là, ça c'est clair. Mais il est clair que, et d'ailleurs on a été surpris, je ne sais pas, mais on a constaté que quand nous on avait tiré le bilan de nos enquêtes, ensuite il y a eu l'enquête nationale de SOS homophobie, et il y avait effectivement, ça se croisait, bon, nos territoires ne sont pas des territoires à part, donc ça se croisait, et donc on a vu cela. Mais je ne peux pas dire que dans les permanences sociales, pour l'instant du moins, on n'en reçoit pas là-dessus, pour l'instant on est sur plein de situations très variées. Homophobie au travail, le groupe social, de toute façon, on fait des remontées régulières, mais c'est des remontées donc statistiques et anonymes. Comme on vient de réouvrir les permanences là en septembre, j'ai pas eu de signalement spécifique. Peut-être que quand on va faire un premier point en janvier, on aura peut-être un état des lieux à ce moment-là concret, plus précis.
Ce que tu décris, Bernard, toi qui es militant des Basco, c'est que ce que nous on constate aussi, c'est qu'il y a des cas, mais que les gens n'arrivent pas à trouver le chemin systématiquement des associations ou ne franchissent pas le pas.
C'est clair. Alors là, c'est très très clair, il y a un vrai problème, mais ça on le voit année après année sur nos enquêtes. On a un nombre de personnes qui sollicitent des associations qui est très faible. Je crois qu'il était de 15% par rapport aux cas qui nous ont été signalés. Donc oui, il y a un problème. Un problème de communication, il y a un problème de présence. Alors, ce qui se passe souvent, moi je le vois à travers les réseaux sociaux, c'est que quand il y a une situation, les gens envoient un message à l'asso. Ensuite, il y a un échange qui s'opère et puis, pof, ça disparaît. C'est-à-dire que on n'arrive pas forcément à rencontrer les personnes. C'est-à-dire qu'on nous a signalé une situation, nous a demandé un conseil, mais j'ai l'impression que, enfin, c'est une impression, que, en fait, les conseils, on va, les personnes vont les glaner un petit peu partout, aux copains, aux assos, etc. Et puis ensuite, font le tri entre elles, et ça pose le travail de nos associations, d'abord se faire connaître, mais aussi faire savoir l'expertise de nos associations. Parce qu'effectivement, nous, les situations que l'on traite, c'est une démarche très simple, mais qui est quand même assez méthodique, avec des gens qui sont formés. On a une formation, là encore, bientôt avec l'association Contact, pendant 2 jours pour les accueillants. On fait l'accueil, l'écoute, un diagnostic et l'orientation. Donc, on ne traite pas forcément les situations en tant que telles, souvent on oriente vers la structure ou le service public ou le syndicat ou l'avocat ou que sais-je. Mais il y a peut-être, il faut qu'on fasse peut-être savoir mieux ce qu'une asso peut apporter de plus et qui n'est pas forcément connu. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Et puis, il faut qu'on soit beaucoup plus présent, peut-être de manière plus efficace, sur les réseaux sociaux.
Parlons d'un sujet très particulier qui est celui des violences conjugales dans les couples LGBTI. Est-ce que vous sentez une montée en puissance de la prise en considération de ces cas de violence conjugale? C'est-à-dire, pour préciser ma question, est-ce que les membres des couples, des publics qui sont les nôtres, arrivent à passer ce seuil de la honte pour sonner et demander de l'aide à une association sur des cas de violence?
Pour l'instant, je suis incapable de répondre à cette question parce que ces éléments ont été abordés pour des personnes extérieures à l'association, mais de manière très très limitée. Et donc voilà, on en est pour l'instant, je peux pas dire qu'on est là-dessus. Je n'ai aucune capacité d'évaluation de la réalité du phénomène ou de l'ampleur ou des difficultés.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois qui viennent, finalement, et pour l'année 2022, en espérant qu'elle ne soit pas aussi perturbée que 2020 et 2021, parce que d'après notre constat, l'année 2021 qui a été moins confinement a été quand même la plus éprouvante à notre avis, parce qu'elle était sur une durée et que à force on était vraiment épuisé. Là, il y a un redémarrage après les grandes vacances.
Alors écoute, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est une belle capacité de mobilisation. Alors c'est parti, mobilisation transfrontalière, parce que pour nous c'est important.
Ça c'est pas important.
Parce qu'on a recommencé beaucoup d'activités avec les associations de l'autre côté de la Bidassoie, du côté basque, du côté de Saint-Sébastien notamment. Donc on a des actions communes. Belle mobilisation aussi, j'espère, pour les prochaines échéances électorales. Parce que là, on a décidé de créer un groupe qui commence à travailler dessus. Parce que la question, c'est que on avait des revendications qui rassemblaient, synthétisaient. Il y a eu le mariage, puis il y a eu la PMA. La question, c'est que comment nous, on peut exister dans l'espèce de maelstrom dans lequel on est actuellement, et quelles revendications on met en avant, et comment, et puis de manière modeste, localement, et puis ensuite avec d'autres structures. Donc, parce que la question ensuite, ça va être pour nous, localement, au moment des législatives. Parce qu'on a la tradition, par rapport à toutes les élections, d'organiser des interpellations des candidats à travers des pactes, des chartes, etc. Et aussi des réunions publiques où on invite la presse, où on invite les adhérents, on invite le public, etc. Donc ça, on voudrait le reprendre parce que il faut pas lâcher les élus, parce qu'à partir du moment où ils signent un pacte, une charte ou que sais-je, ils ont un fil à la patte et après on les tient dans le sens où on remonte le fil pour pas les lâcher. Alors c'est pas toujours efficient. Hein. On a des députés qui nous ont promis monts et merveilles et qui se sont abstenus. C'est le cas à Biarritz sur la PMA. Bon, donc voilà, une belle mobilisation et puis on retrouve le sens du rassemblement, parce qu'il faut qu'on mutualise, on rassemble au niveau de toutes les associations de province.
Bon, ce sera le mot de la fin pour maintenant, mais on aura l'occasion, je pense, de refaire le point entre associations, même à tant de distance. Belle fin de journée, et puis bonne activité à Biarritz, Pau, Bayonne et sur tous les lieux où vous êtes. Très bonne soirée.
Merci, merci. Et puis la même chose à Quasar, longue vie, plein d'enthousiasme. Et puis on va repartir aussi, on va interpeller Quasar là-dessus, sur la campagne pour l'Europe de l'Est.
C'est ça.
Voilà. Parce que là, on part sur maintenant des très rapide, mais sur des jumelages, des partenariats avec des associations en Pologne et en Hongrie. Et on a commencé à avoir des rendez-vous ou des contacts. C'est un peu compliqué parfois avec la langue, mais ça, on ne veut pas lâcher non plus, parce que la campagne qu'on avait initiée ensemble est une belle campagne, mais elle a encore toute sa nécessité. Voilà.
Alors, on revient au point là-dessus. À bientôt, Benyat. Ouais. Merci, au revoir.
À bientôt.
Radio G. 101.5 FM.
Allez, en voiture Simone avec les Bella Donna 9CH, ce groupe de rockeuses lesbiennes de Marseille. Radio G, Quasar en Zière. À fond les ballons et à fond le klaxon, c'était les Bella Donna 9CH. Quasar en Zière. Rizière accueille son deuxième invité de la soirée dans ce Quasar Rizière spécial Tour de France des associations. Bonjour Frédéric Hay.
Bonsoir.
Alors Frédéric, on ne va pas faire ceux qui ne se connaissent pas, on se connaît très bien, donc on va se tutoyer. Et donc Fred est le président d'ADEOS, l'association, le centre LGBT, I+, de ce qu'on voudra, mais en tout cas de Charente. Dis-nous en plus, vous existez depuis combien de temps à peu près ?
Alors ADEOS, c'est le centre LGBT des Charentes.
Oui, pardon.
Charente-Maritime. Et des Charentes, c'est-à-dire Angoulême, La Rochelle, Saintes. On est même un peu présent sur Niort, dans les Deux-Sèvres. Voilà, enfin, ex-région Poitou-Charentes, hein, pour situer oui. géographiquement. On existe depuis 2005, au niveau de la création de l'association. Donc, on a 16 ans. On est une association, comme on dit, mature, si je puis dire. Et on a, comme beaucoup de centres LGBTI, beaucoup d'activités qui sont à travers des commissions de la prévention en milieu scolaire, des commissions qui s'occupent de la lutte contre le sida, prévention, IST, besoins primaires. On a une commission transgenre, une commission droit d'asile, LGBTI, qui nous prend beaucoup de temps. Également, et puis une commission juridique, lutte contre l'homophobie. On est quand même assez spécialisé là-dessus, historiquement, depuis le début. Et on a, en tant qu'accompagnant, en tant qu'association de partie civile, à peu près un dossier pénal par mois en justice. Voilà.
Partie civile, on rappelle ce que ça veut dire, partie civile, pour ceux qui ne sauraient pas ?
Alors, partie civile, c'est lorsqu'on se porte aux côtés des victimes devant la justice pour accompagner et défendre les intérêts en tant que partie civile des personnes LGBTI, lesbiennes, gays, bi, trans. Voilà.
Voilà, avec trois obligations, c'est d'avoir l'accord de la victime, ça tombe sous le sens, d'avoir inscrit dans les statuts la lutte contre les discriminations, au moins sur les critères de l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'état de santé, et puis évidemment d'avoir 5 ans d'existence. Bon, voilà, il y a parmi les activités liées à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, surtout de la convivialité, du culturel et du loisir qui fait le ciment, je dirais, de tous les membres d'une association LGBT en général, avec le contexte bien particulier qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore aujourd'hui lié à la crise du Covid, qui nous a fait quand même, comme beaucoup d'autres associations, beaucoup de mal, de tort, avec une baisse d'activité liée aux activités de loisirs et de culture d'une façon générale. Et c'est quand même le moteur essentiel d'entrée de nouveaux adhérents et de nouveaux sympathisants et de nouveaux militants, ce qui fait que aujourd'hui, comme beaucoup de structures associatives, on est un peu en difficulté par rapport aux demandes et aux moyens humains que l'on a en face. Voilà.
Ça, c'est le constat partout. Hein.
S'il y a des auditeurs, auditrices qui ont du temps pour rejoindre les associations LGBT pour lutter contre l'homophobie et accompagner des demandeurs d'asile, accompagner des personnes transgenres, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que le travail est là.
C'est du tout Fred, c'est-à-dire qu'il profite de la radio pour venir nous piquer nos potentiels adhérents et les emmener chez lui.
Ah bon, je te rassure. Quand je reçois des demandes de bénévoles dans un certain nombre de régions, la dernière c'est Orléans.
Oui. Je l'ai
renvoyé vers GAGL d'Orléans.
Oui, évidemment.
Et son président en copie cachée. Voilà. Donc voilà. Je peux pas faire mieux.
Non.
Voilà.
Ça c'est sûr. Non, mais il y a pas de problème entre nous, bien évidemment. Et comme se piquer les donateurs.
Non, ça non plus.
C'est arrivé. Je pense que c'est arrivé, mais dans l'autre sens. Je crois qu'on n'a pas été très vertueux. Mais bon, bref. C'était au bénéfice des demandeurs d'asile. Justement, les demandeurs d'asile, vous avez quelle activité très exactement et quels sont vos grands, dans le plaidoyer que vous utilisez, quelles sont les grandes lignes que vous mettez en avant ? Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de points à améliorer ?
Alors, l'association ADEOS comme Quasar à Angers, on est une association habilitée OFPRA qui permet quand même de mettre de l'huile dans les rouages de la grosse mécanique administrative française sur la demande d'asile.
Alors, explique en quoi l'habilitation OFPRA est importante.
Alors, elle est importante puisque ça permet d'avoir des contacts privilégiés, d'échanges, d'envoyer des informations, des dossiers par mail directement aux bons interlocuteurs dans les bons services à l'OFPRA à Paris, ce qui évite d'envoyer sous forme papier, etc. C'est très efficace. Et puis, en tant qu'association habilitée, surtout, alors on n'a pas les moyens humains et les moyens financiers d'accompagner tous nos demandeurs d'asile à l'entretien physiquement à l'OFPRA à Paris, mais pour certains dossiers qu'on estime absolument nécessaires, on fait l'effort d'accompagner en tant qu'association habilitée physiquement les demandeurs d'asile en soutien, et c'est très important psychologiquement, moralement pour eux, notamment quand c'est des dossiers qui sont très sensibles, où il faut peut-être un petit coup de pouce pour faire pencher la balance du bon côté. Voilà.
Alors, ce qu'on peut dire aussi pour rassurer ceux qui entendraient ton propos, c'est pas le pur hasard, c'est-à-dire qu'on accompagne comme à quasar les personnes qui ont le plus de difficultés à pouvoir exprimer quelque chose de très intime. C'est ça la difficulté, et c'est pourtant les questions qui vont leur être posées.
Tout à fait. Donc naturellement, au-delà de l'entretien à Paris, il y a toute la phase préparatoire, comme tu le dis, qui est la pièce maîtresse, l'aide à la rédaction du récit de vie, qui explique grosso modo le pourquoi ils demandent l'asile en France, avec un certain nombre d'événements qu'ils ont pu vivre, mais encore faut-il qu'ils puissent prouver qu'ils soient homo. L'OFPRA ou la CNDA donne un statut de réfugié qui n'est pas automatique, parce que vous êtes homosexuel et vous venez d'un pays homophobe, c'est pas automatique. Il y a trois feux verts qu'il faut bien arriver à comprendre. Le premier feu vert, vous l'avez quasiment automatiquement, parce qu'aujourd'hui au niveau de l'Afrique, le continent africain, il n'y a plus un seul pays qui n'est pas homophobe, si je puis dire, à part l'Afrique du Sud et les îles en face du Sénégal, Cap Vert. Mais pour l'ensemble du continent, c'est une catastrophe. Donc le premier feu vert, venir d'un État où il y a de l'homophobie, soit institutionnalisée, soit non institutionnalisée, mais sociétale, religieuse, familiale, etc. C'est l'ensemble du continent, le premier feu vert, vous l'avez quasiment automatiquement, en tant qu'homosexuel. Par contre, le deuxième feu vert, qui est d'obtenir, entre guillemets, de prouver, entre guillemets, son orientation sexuelle, ça, c'est beaucoup plus difficile, notamment pour des personnes homosexuelles africaines, où, je dirais, la sexualité, les tabous et les concepts d'homosexualité occidentale et africaine ne sont pas les mêmes.
Voilà. On touche à l'intime, et l'intime ne se dit pas.
Mais c'est compliqué.
Voilà.
En Afrique, souvent, on ne parle pas de sexualité. En Afrique, un homme ne pleure pas. En Afrique, les tabous sont très très forts. Et souvent, on est obligé à un certain âge en plus, avec la pression familiale, de se marier, voilà, d'avoir des enfants. Enfin, c'est des situations que, en France, on a connues après la dernière guerre.
C'est ça.
Faut pas oublier que les couples homosexuels, après la première guerre, comme en Afrique actuellement, étaient obligés, par pression sociale, de se marier, d'avoir une vie cachée, double, etc., etc.
Et voilà, le travail nécessaire des associations que nous sommes et des bénévoles, d'expliquer à des gens dont la culture ne permet pas l'expression de cette intimité, tous les types de questions qui vont pouvoir leur être posées pour pouvoir y répondre le mieux possible.
Exactement, les préparer. Voilà, donc ça,
troisième feu vert.
Le troisième feu vert, c'est toujours d'arriver à prouver qu'en cas de retour au pays, on risque un certain nombre de choses. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'en cas de retour au pays, on risque rien du tout. Il faut arriver à personnaliser, c'est-à-dire à titre personnel, qu'est-ce que je risque. Et s'il suffit pas de dire que tous les homosexuels dans mon pays risquent leur vie, c'est moi, à titre personnel, en rapport avec mon histoire personnelle, mon récit personnel, en cas de retour, qu'est-ce que je risque? Et plus on a de motifs pour demander l'asile, plus on a de chances, entre guillemets, à obtenir le statut de réfugié sur ce troisième feu vert. Voilà. Donc, c'est l'homophobie d'État, c'est l'homophobie familiale, c'est l'homophobie du voisinage, c'est la privation d'éducation lorsqu'on connaît des enfants qui sont homosexuels. Il y a un certain nombre de motifs que l'on peut invoquer, et souvent les demandeurs d'asile africains, voire maghrébins, ne savent pas qu'ils peuvent invoquer ces motifs-là. La plupart du temps, c'est grâce à la qualité d'écoute de nos bénévoles que l'on identifie les possibilités de demande d'asile, et on formalise, on fait la synthèse en fin de récit de vie, justement, de ces différents motifs de demande d'asile. Voilà.
Est-ce que vous avez été vous aussi submergé par les demandes des personnes transgenres à l'issue du premier confinement en 2020 et depuis avec un nombre conséquent de demandes, y compris d'ailleurs pour des mineurs?
Alors, c'est un phénomène qui est national. On le constate dans toutes les structures associatives LGBT de France et de Navarre, de province et de Paris. Le phénomène de demande croissante et de plus en plus de mineurs qui font leur coming out liés à leur transidentité est important et bouscule les organisations, les institutions. La première, c'est l'institution éducative, et la deuxième, naturellement, familiale. Je dirais même qu'elle bouscule aussi un peu nos organisations LGBT, qui sont pas forcément vieillissantes. C'est qu'en fait, les attentes des personnes transgenres mineures, des jeunes générations, les attentes sont très, très fortes. Ils veulent, pour parler clairement et résumer, tout de suite. Et ça, c'est notre rôle, et c'est toute la difficulté de nos organisations, de nos associations LGBT, d'essayer de faire la part des choses en leur expliquant qu'ils ne peuvent pas avoir tout de suite, mais de façon progressive, au même titre qu'ils sont souvent, lorsqu'ils font leur coming out auprès de leurs parents, ils sont souvent très exigeants vis-à-vis de leurs parents, et ce qu'on leur dit souvent à ces jeunes, c'est que la prise de conscience de leur transidentité, elle a mis du temps, elle a mis des mois, voire des années. Ils ont fait leur coming out interne chez eux en prenant le temps. Et lorsqu'ils font coming out aux parents, ils ne comprennent pas que les parents, eux,
ont besoin aussi.
N'acceptent pas tout de suite. Or, les parents, ils sont bousculés, ils comprennent pas, il leur faut du temps. Alors, quand les parents, entre guillemets, on leur annonce un coming out lié à l'orientation sexuelle, homosexuelle, ça, les parents, ils savent ce que c'est, donc ça va quand même assez rapidement. Mais lorsqu'on fait un coming out lié à la question transgenre, les parents sont complètement perdus. Et lorsqu'ils se retournent auprès de l'institution scolaire, voire du médecin de famille, voire des psychologues, souvent, c'est le grand désert.
Voilà.
Et souvent, ce qui se passe, on le constate, je pense qu'en Angers, c'est la même situation que chez nous, c'est que c'est les CPE, c'est les infirmières scolaires, c'est les médecins, c'est les psychologues qui nous les envoient.
Exactement.
Qui envoient en plus les parents, comme si on était un service public, ce que nous n'en est pas, et pour lequel nous n'avons aucun fonds, je le rappelle.
Et en même temps, eux-mêmes essaient de se former. Merci pour ce tour d'horizon, Frédéric. On se dit à très très vite et à très bientôt, parce que forcément, nous aurons forcément à échanger, quels que soient les sujets, je l'imagine.
Bien sûr.
Allez.
Ça manque pas.
Très bonne soirée. Merci, Fred.
Bonne soirée. Au revoir.
Oshi sur Radio G, je te pardonne. Quasar Anzière jusqu'à 21h, vous ne bougez pas.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour, tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier. Je me sens conne, j'aurais pas pensé. J'abandonne, je mets tout de côté. Tu m'étonnes, que l'amour fait crever. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Je sens si seul. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens comme. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler, pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je me vois flou. Je sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver, mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne.
Oshi, je te pardonne presque ce qu'elle a dit à Fabien Lecoeur après sa fameuse saillie dont il vient de s'excuser auprès d'Oshi et elle lui a répondu gentiment, non pas je te pardonne mais ferme-la, au moins c'est clair.
Radio G, www.radio-g.fr.
Quasar Anzière reprend sa pérégrination au travers la France. Alors, on se rapproche d'Angers. Maintenant, on prend la direction de Tours après être descendu dans le Pays Basque, remonté par les Charentes. Nous nous arrêtons en Touraine. Bonjour, H. Claveau.
Bonsoir, Stéphane. Bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, H. Claveau, tu es administrateur du centre LGBTI de Touraine et tu es particulièrement référent des IMS. Avant de parler des IMS, parlons un peu du centre lui-même. Il existe depuis combien d'années et quelles sont ses grandes missions, tout moins celles qu'il assume ?
Alors, le centre a été créé en novembre 2005. J'ai assisté à sa création puisque je suis l'un de ses cofondateurs également. Ça, c'est une autre casquette que j'ai.
Ça, c'est bien que les créateurs reviennent toujours et soient toujours
absolument
là.
Absolument. Au début, ça s'appelait LGP Région Centre et puis on a fini par prendre le nom de centre LGBTI Touraine, la dénomination qu'on a actuellement.
Voilà.
Alors, au niveau de nos grandes actions, ça se décline en trois pôles, hein, le pôle social, le pôle éducatif et le pôle un peu plus militant. Au niveau du pôle social, on a notre grande action qui sont les permanences d'accueil et d'écoute. Donc, ce sont des permanences qui ont pour l'instant lieu tous les samedis de 14h à 16h30, qui sont ouvertes à tout le monde, aussi bien au public général que à des personnes qui peuvent être en questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, pardon, ou qui peuvent être en difficulté dans le milieu familial, professionnel ou scolaire. Donc voilà, ils sont accompagnés, ils sont accueillis par des bénévoles qui sont formés à l'écoute, qui sont formés aux thématiques LGBTI+, et ils peuvent également bénéficier d'entretiens individuels, donc qui se font dans une pièce à part de notre local, sur une thématique particulière, ou s'ils ont vraiment besoin d'un entretien individuel, d'un suivi particulier. Voilà, pour ce qui est des permanences généralistes. Et puis, on a également, une fois par mois, le samedi matin, ce qu'on appelle les breakfast meetings, donc ce sont des permanences aussi, mais qui sont plus à destination des personnes migrantes de langue anglophone. où là encore on a des bénévoles qui sont plus spécifiquement formés à la thématique des personnes migrantes, donc aussi aux questions des dossiers qu'il y a à remplir auprès de l'OFPRA. Donc on les accompagne, on les conseille et on les suit tout le long de leur parcours. Également.
Voilà. C'est absolument significatif que les centres qui étaient avant la lutte contre l'homophobie en direction des résidents français se soient quasiment tous développés avec une antenne sur les demandeurs et demandeuses d'asile, preuve que c'est une thématique hyper importante.
Absolument, on a de grosses demandes, on a de plus en plus de personnes migrantes qui fréquentent notre centre et qui sont en demande.
Et à la différence d'Angers, sans doute, où nous avons énormément de personnes guinéennes, vous avez des localités, des pays africains particuliers ou pas ?
Je ne saurais pas le dire, parce que je ne suis pas de près les breakfast meetings, hein, mais là je suis vraiment désolé, je serais incapable de dire vraiment la provenance.
D'accord. Ok. Alors, parmi les activités que vous avez, toi, tu parlais des interventions en milieu scolaire. Vous bâtissez vos interventions sur combien d'heures et finalement, par quel squelette d'intervention vous débrouillez-vous pour amener à la prise de conscience et à l'échange avec les élèves des différents niveaux que vous rencontrez ?
Donc on intervient dans les collèges, les lycées et l'enseignement supérieur. On a un agrément de l'éducation nationale, hein, et ce sont des séances généralement de 2 heures.
Oui.
Donc à chaque fois. Et donc on a des trames adaptées collège, lycée, enseignement supérieur. On aborde les notions LGBTI+, hein, donc on entre, on fait une entrée par les notions LGBTI+. Voilà. Les LGBTI-phobie, évidemment, on parle d'homoparentalité également, de coming out, d'outing. Est-ce que ça inclut l'outing ? Pourquoi c'est pas bien, par exemple ? Et puis, on fait tout un travail aussi sur la déconstruction des stéréotypes, des préjugés, hein, ce qui amène aux discriminations, évidemment. Qui dit stéréotype dit préjugé et dit évidemment discrimination en bout de course.
Oui.
Qu'est-ce qu'une discrimination ? Comment on discrimine ? Dans quel cas ? Et qu'est-ce que peut entraîner une discrimination ? Ça, c'est super important comme travail à faire auprès des futurs citoyens, finalement.
C'est ça. Est-ce que vous avez des jeux de rôle favoris ?
Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup la technique du pas en avant qu'on utilise au lycée. C'est une technique sur laquelle je me mets à chaque fois quand je fais les interventions au milieu scolaire, que je vais même d'ailleurs réutiliser auprès d'un public de jeunes ados, puisque je vais être aussi formateur BAFA la semaine prochaine, donc je vais réutiliser cette technique-là auprès d'eux.
Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est que le pas en avant ?
Alors, le pas en avant, en fait, chacun a une carte profil, donc un personnage, par exemple, jeune homme trans de 20 ans, ou alors une autre carte, enfant d'un couple de même sexe, une autre carte, personne porteuse de handicap, une autre carte, migrante, lesbienne... Et chacun a quelques minutes pour rentrer dans la peau de son personnage. Donc on les fait mettre en ligne, on leur donne une situation, et suivant la situation qu'on leur donne, ils avancent d'un pas s'ils estiment qu'ils ne seront pas discriminés dans cette situation-là, ou ils restent sur place, voire même ils reculent s'ils estiment qu'ils seront discriminés. Donc on leur donne toute une liste de situations aussi. Ça a pour but de mettre en espace, en fait, et en contexte, les discriminations.
Et
de leur faire réfléchir.
En fin de situation, on voit qu'il y en a qui sont bien avancés, d'autres qui sont en arrière. Et d'où la prise de conscience.
Absolument. Voilà, ça, c'est un outil qu'on utilise vraiment beaucoup et qui est vraiment très bien.
D'accord.
Chez les plus jeunes, les collégiens, on utilise plutôt une vidéo qui s'appelle Omar, qui parle d'un jeune homme qui vit en banlieue et qui est en couple avec un autre jeune homme. Et elle est plutôt pas mal faite et elle est plutôt porteuse de parole, cette vidéo-là. Voilà.
Et en moyenne, combien d'heures d'intervention milieu scolaire à l'année ? Moyenne, hein ?
À l'année. pardon, excusez-moi. Je pense que là, actuellement, avec le contexte, c'était compliqué, mais je dirais, on essaye de tabler sur au moins une quarantaine d'établissements par an.
D'accord.
Au moins.
Donc c'est vraiment une grosse activité pour vous.
Ouais. C'est une de nos plus grosses activités. On a la subvention du département pour ça. C'est une des activités sur lesquelles planche le plus notre salarié, puisqu'on a une salariée au sein du centre LGBTI de Touraine.
D'accord. Voilà. Et c'est elle qui également les anime en partie.
Voilà. Elle les anime et elle fait appel aussi aux bénévoles. Hein. On a toute une liste de bénévoles. IMS auquel on peut faire appel. Moi-même, quand je suis disponible, parce que je travaille aussi à côté, quand je suis disponible, je vais avec elle en binôme. Ça se fait en binôme, les interventions. En fait, on fait des interventions
toujours
en binôme. Ça, c'est une obligation qu'on fait.
Bien sûr.
Forcément. Mais voilà, donc c'est Priscilla, notre salarié, qui est en première ligne, et puis après, aidé par des bénévoles selon leur disponibilité. Voilà. Et ça se passe toujours plutôt bien, on a plutôt un bon accueil dans l'ensemble, et souvent, et c'est même de plus en plus les établissements qui nous contactent.
Vous appellent, voilà, c'est ça. Voilà. Dans l'actualité qui est la vôtre, vous organisez la marche, la.
Absolument, donc la ça c'est Pride. Le troisième volet, le volet plus militant.
Oui.
Donc voilà, la fameuse marche des fiertés qui existe également depuis 2006. La première a eu lieu en mai 2006. Mmh. Voilà, évidemment, comme toutes les Prides, avec les revendications que portent non seulement le Centre LGBT de Touraine, mais nos associations partenaires, puisqu'on travaille beaucoup en étroite collaboration avec des associations comme le Planning Familial, comme AIDE, comme Stop Harcèlement de rue 37, comme Nous Toutes 37. Voilà. Et puis des associations aussi de personnes trans et intersexes.
Alors, Tours, on va pas se le cacher, vous êtes une ville où il y a une présence de groupuscules néofascistes, extrême droite, très engagés.
Alors,
politiquement, comment est-ce que vous vous situez? Comment est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes défendu?
Alors, oui, il y avait. Ça s'est un peu calmé. Alors je pense que tu fais référence à ça, la polémique qu'il y a eu au mois de mai dernier,
oui.
Forcément.
Oui.
Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu, on les a revus revenir sur le devant de la scène, mais sinon le reste de l'année, on est quand même relativement tranquille et on est fortement appuyé par la nouvelle municipalité qui nous apporte un soutien vraiment sans faille, et ça je tiens à le souligner, merci à eux. Et également, on est aussi très soutenu par deux de nos députés. Monsieur Chalumeau et Madame Colbock, qui sont présents, mais vraiment à chaque instant, et là encore dernièrement, qui nous ont réassuré de leur soutien.
Et on va rappeler quand même un point, H, c'est que la non-mixité est une façon de lutter qui n'exclut pas les autres, mais qui permet aux gens concernés d'abord de pouvoir travailler les questions qui les concernent entre elles. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, il y a toujours un partage, parce que dans nos associations, les autres groupes sont à un moment ou à un autre interpénétrés par les questions des autres groupes. Donc la non-mixité, c'est un temps. Mais ensuite, effectivement, il y a partage pour qu'il y ait prise de conscience. Si un groupe en non-mixité restait uniquement entre lui, il est bien évident que les autres personnes d'une association n'auraient jamais accès à cette connaissance, ne s'en trouveraient pas éduquées ou au moins en conscience. Et c'est bien en ça que sert la non-mixité.
Nous sommes absolument tout à fait d'accord sur ce point, évidemment.
Je n'avais pas de doute.
Voilà. Alors, la Pride est accompagnée par notre Semaine des Fiertés, qui a été un gros, gros succès l'an dernier. Elle a eu lieu pendant une semaine à la Guinguette de Tours, avec qui on avait instauré un partenariat. Ça a très bien marché. On a proposé des conférences, des événements, des petits concerts, des choses comme ça. On va réitérer pour 2022. Voilà, je pense, ça a tellement bien marché qu'on va réitérer, et puis avec une nouvelle Pride qui est normalement, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, fixée au 18 juin prochain.
D'accord, déjà, 2022, d'accord.
Normalement, 18 juin 2022, si tout se passe bien.
Question.
Alors, on a un autre projet, c'est un projet qui nous a vraiment à cœur, c'est qu'au sein du centre LGBT, on a une bibliothèque qui avait été laissée à l'abandon dans notre ancien local, parce qu'on a déménagé tout récemment. Là, on a un plus grand local, on peut accueillir plus de monde, faire beaucoup plus de choses, et je suis également en charge de la restructuration de notre bibliothèque et de notre fonds documentaire, et donc j'ai plein de, enfin moi et Priscilla, notre salarié et d'autres personnes de l'association, on a plein de projets dans cette bibliothèque, notamment la mise en place d'un club de lecture et d'ateliers d'écriture,
voilà.
Pour encore là favoriser la sociabilisation et le être ensemble, et à travers un autre moyen d'expression qui est la lecture et l'écriture. En plus, la lecture sera la grande cause nationale 2022 dans notre pays, donc c'est une bonne occasion de voilà.
Et pour nos associations, rester dans la conscience que nous devons produire des archives, ça c'est absolument essentiel. Alors que le centre LGBTI d'archives à Paris n'est toujours pas officiellement créé, ou tout du moins peut-être sur des rails, mais avec beaucoup de difficultés, et c'est tout de même tout à fait primordial pour nos associations, y compris en région.
Voilà, et puis une autre dernière de nos actions qui nous tient aussi à cœur, c'est l'information auprès du public, évidemment. Donc on fait des stands d'information sur certains événements, notamment les concerts au quart de tour, les îlots électroniques, Terre du son, qui nous permet d'aller à la rencontre du public et de les sensibiliser et de faire de la prévention contre les LGBTI+. Et on fait un petit peu de prévention VIH, IST également.
Eh bien, un grand merci à H. Claveau pour le centre LGBTI de Touraine qui nous appelait ce soir, après Adeos, après Les Bascos, d'autres associations dans les semaines qui viennent, dans nos différents numéros de Quasar en Zier. Très belle soirée à toi et au plaisir de nous rencontrer.
Merci beaucoup d'avoir reçu sur l'émission.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Avant de nous séparer, parce que l'heure tourne, 20h57, il faut le dire, un petit retour sur l'agenda à venir des semaines et du mois de novembre. Je vous le rappelle, demain, vendredi 22 octobre à 19h, réunion des croyants LGBT Anjou, vous les trouvez sur Facebook. Samedi prochain, et comme tous les samedis de chaque semaine, donc là nous serons samedi 23 octobre, mais tous les samedis suivants, à partir de 17h et ce jusqu'à 19h, c'est la permanence de Quasar. Là, comme d'autres associations vous l'ont expliqué, les personnes en questionnement, en doute, juste qui veulent passer pour boire un coup, prendre des informations, sont les bienvenus au 15 rue de Jérusalem, entre la rue des Banchets et le boulevard des Deux Croix. Lundi 25 octobre, c'est la réunion du pôle droit des étrangers. Et si vous voulez vous former, vous contactez asile@quasar.fr. Jeudi 4 novembre prochain, eh bien, ce sera un nouveau numéro de Quasar en Zier, ici même, même punition, 20h-21h. Dimanche 7 novembre à 14h, ce sera l'après-midi jeu pour les personnes demandeuses et demandeurs d'asile, mais pas uniquement les adhérents, les personnes qui ont envie de les rencontrer et de leur donner un petit coup de main, ben, sont les bienvenus. Lundi 8 à 19h, chez Quasar, la réunion de bilan des partenaires de la Pride 2021 qui s'est hyper bien passée, mais comme d'habitude, on fait le point, le bilan, de façon à toujours l'améliorer. Et puis le vendredi 19 novembre, c'est le retour de la conviviale. Alors là, le rythme est très simple, c'est le troisième vendredi de chaque mois. On apporte dès 20h un plat à partager, une entrée, un dessert, un coup à boire, un morceau de pain, et on partage tout cela ensemble et joyeusement. Attention, pour l'instant, les conviviales, pour entrer, il faut nous montrer votre passe sanitaire de façon à ce que nous puissions tous enlever nos masques et manger en toute tranquillité. Quasar en Zier s'achève. On vous embrasse, on vous souhaite une très 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 belle soirée. On vous retrouve en pleine forme dans 15 jours. La semaine prochaine, Tonix Live avec toute l'équipe de Tonix. Et puis, dans nos différents rendez-vous. Et sachez que si vous avez des questions, si vous avez des questionnements sur votre orientation, identité de genre ou votre état de santé, vous nous contactez sur quasar.fr. Et si vous êtes victime d'agression, malheureusement, ou de discrimination, pareil, très 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 belle soirée, à bientôt, au revoir.